avec Jean-François Blanchette et Paul-Raphaël Charon. Au FM 93, voici Dan Pou.
Oh, Dan Pou, j'imagine qu'il doit être content de savoir jusqu'où s'étend la visibilité à Québec présentement. Mais c'est pas de ça qu'on va lui parler. On va lui parler de hockey et de football. Salut, Dan!
48 kilomètres, c'est ça qu'il faut que je retienne?
Oui, ouais, exactement. Exactement, 48 kilomètres.
Ça m'a marqué.
C'est important.
Ça
m'a marqué, ouais. Si tu veux devenir capitaine de bateau, ça pourrait te servir en fin de semaine. Là.
Parfait. OK. Ça arrivera pas, par exemple.
OK. Ça arrivera pas parce que la fin de semaine, au niveau du sport, est pas mal occupée, Dan. Ça commence ce soir avec les Remparts qui reçoivent la sensation depuis déjà plus d'un an dans la Ligue d'hockey junior majeur, Alexis Lafrenière.
Depuis plus longtemps que ça, même. C'est sa troisième année avec l'Océanique. Parce que Alexis Lafrenière est né le 11 octobre. Donc, vendredi de la semaine dernière, il a eu 18 ans. Et quand un joueur junior est né après le 15 septembre, ça devient, en termes de hockey, un late. Donc, il est éligible au repêchage seulement avec la gang qui sont un peu plus jeunes que lui. Donc, il va être éligible au repêchage seulement au mois de juin prochain. Et comme quoi, il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est un gars de Saint-Eustache. Puis le repêchage va avoir lieu à Montréal l'an prochain, organisé par le Canadien au Centre Bell. Donc, évidemment, ça va être une grande journée pour lui, mais il va avoir fait 3 ans avec l'Océanique, comparativement à un Sidney Crosby qui est né au mois d'août, qui en aura fait juste 2, son année de 16, son année de 17 ans, puis à 18 ans, il était déjà dans la Ligue nationale.
Mais là, il faut dire qu'Alexis Lafrenière est même pressenti pour être le premier choix au total tout.
Exact. Le tout premier choix du repêchage. Il y a un gars qui joue en Ontario qui s'appelle Quinton Byfield, qui a à peu près les mêmes stats que Lafrenière depuis le début de l'année. Les stats d'Alexis Lafrenière avec l'Océanique cette saison, après une saison de 80 points il y a 2 ans puis de 105 points l'année dernière, ben c'est 29 points en 11 matchs. C'est quand même impressionnant. Il s'amène à Québec ce soir. Puis les gens qui l'ont jamais vu jouer, il y a le numéro 11. Puis les gens qui jasent puis qui prennent un petit billet de Pepsi puis qui regardent pas trop le match, vous allez peut-être pas le remarquer, Alexis Lafrenière, parce que comparativement à un match au tournoi Pee-Wee, où quand on voit le meilleur joueur sauter sa glace, tout de suite la rondelle s'en va dans la zone adverse, puis il sort de là, puis le kid, qui est vraiment, vraiment bon, il finit le match avec 3 buts, 2 passes. Ben Alexis Lafrenière, il finit beaucoup de matchs avec 2 buts, 2 passes, mais on l'a pas vu dans le match. Donc, il fait tout bien, mais c'est pas explosif. Il a un immense talent, évidemment. Il n'est pas pressenti pour être tout premier choix du prochain repêchage pour le fun, mais c'est pas un gars flamboyant. C'est un gars qui a de bonnes habiletés. Évidemment, on dit de lui que c'est le meilleur junior peut-être au Canada actuellement, peut-être même sur la planète, sauf que c'est pas un gars qui va transporter la rondelle d'un bout à l'autre puis qui va marquer le but. C'est un gars qui est toujours bien positionné. Mais moi, le parallèle que je vous ferais, au lieu de vous comparer Lafrenière avec un Austin Matthews ou avec un Connor McDavid ou même avec un Sidney Crosby qui était ultra dominant...
Laisse-moi deviner.
Je pense que la comparaison à date d'aujourd'hui, vas-y, devine.
Patrice Bergeron.
Non, je veux dire pourquoi ça peut pas être Patrice Bergeron.
OK.
Parce que Alexis Lafrenière, c'est un ailier, Patrice Bergeron, c'est un centre.
Et boy, ça
un autre talk que je peux avoir encore plus important, Paul-Raphaël, c'est que Alexis Lafrenière, c'est un gaucher, puis Patrice Bergeron, c'est un droitier. Donc, moi, quand je fais la comparaison, j'ai le gars en tête. Je le vois sur la patinoire patiner avec son hockey. Donc, c'est impossible pour moi de comparer un gaucher avec un droitier. Mais ça, c'est juste moi. Je sais qu'il y en a d'autres qui le font, mais moi, je suis pas capable. Donc, une fois que je vous ai avoué une portion de ma maladie mentale, je vais maintenant vous le comparer avec Jonathan Huberdeau qui joue pour les Panthers de la Floride.
OK. Ah, quand même, c'est pas n'importe qui, Huberdeau.
C'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas Matthews, Crosby ou McDavid.
Il y a plein de monde qui disait, Dan, faut aller voir Lafrenière jouer ce soir au Centre Vidéotron parce que ça pourrait être la dernière fois qu'on peut aller le voir jouer pour 15-20$. La prochaine fois, ça va être au-dessus de 100$ parce qu'il va être dans la Ligue nationale. En plus que les Remparts offrent un méchant bon show depuis le début de la saison.
Ouais, le parallèle de prix est d'autant plus important pour un gars comme toi qui a eu trop longtemps une Corolla 97.
C'est un Camry 96, c'est correct.
Ah, c'est un Camry 96, OK. Mais j'avoue que c'est 16$ au lieu de 125, ça vaut la peine. Mais les Remparts ont un excellent début de saison. Puis ce qui est fascinant chez les Remparts aussi, là on vient de parler d'Alexis Lafrenière qui est le numéro 11, mais le numéro 11 des Remparts, il est bon en tabarouette aussi. Il s'appelle James Malatesta, c'est un jeune de 16 ans qui a été repêché en 7e ronde par les Remparts. Il a été ultra dominant au niveau Pee-Wee. Je me souviens de lui quand il jouait au tournoi Pee-Wee avec le petit Canadien de Montréal. Mais l'année dernière, dans le Midget 3 avec le Lac Saint-Louis, il a aidé son équipe à éliminer les puissants Chevaliers de Lévis en demi-finale. Cette équipe qui avait une seule défaite en saison régulière. Donc Malatesta porte le numéro 11. Il joue comme 16 ans avec les Remparts. Donc, lui, il n'est pas éligible au prochain repêchage. Il va être éligible à l'autre repêchage de 2021. Puis, il y a déjà 9 buts. Donc, tu sais, c'est le fun pour les gens d'aller voir Lafrenière ce soir. Mais peut-être qu'en allant voir Lafrenière, vous allez découvrir Malatesta.
Dan, je vais aussi te parler du match de football de dimanche au Peps. Parce que c'est le deuxième affrontement de la saison entre le Rougeard et les Carabins. Donc, le premier match était oublié pour le Rougeard. Ça a mal été. Ils ont changé de corps arrière depuis. Donc, c'est possiblement le match le plus important de la saison dimanche.
Oui, on joue pour l'avantage du terrain. Puis, évidemment, l'écart de points n'a plus d'importance parce que le week-end dernier, les Carabins ont perdu à Sherbrooke. Donc, le Rougeard a simplement besoin de battre les Carabins dimanche. Puis, il va finir au premier rang de sa division. Puis, il va pouvoir recevoir le match de la Coupe d'Onsbourg le 9 novembre prochain, ici même à Québec. Ceci dit, dans les 25 ans du programme football Rougeard, je me souviens pas d'avoir vu une controverse au poste de quart. Ça a été dans les premières années François Chapdelaine. Ensuite, ça a été Mathieu Bertrand. Il y a eu Benoît Groux. Il y a eu Hugo Richard. Puis j'en oublie évidemment quelques autres. Mais c'était assez évident que ça allait être qui le carrière du Rougeard. Cette année, en début de saison, on s'est retrouvé avec Samuel Chénard, qui était un gars patient, qui a été 4 ans sur le banc à regarder Hugo Richard diriger des matchs. Ouais. Mais il n'a pas joué comme quart partant. Il s'est dit, à ma 5e année, c'est cool, c'est correct, je peux jouer 1 an, donc je vais en profiter. Il a joué 3 matchs, puis Glenn Constantin et Justin Etier ont dit, ouais, finalement, on a regardé ça, on a rechecké les vidéos, puis ça sera plutôt à partir d'aujourd'hui. Donc, il redevient substitut d'un jeune qui s'appelle Thomas Bolduc, qui est le fils d'André Bolduc, que vous avez vu dans les dernières années évoluer avec les Alouettes de Montréal. Donc, il vient d'une famille de footballeurs. Puis le kid a des bonnes qualités athlétiques, c'est une recrue, mais les dirigeants du Rougeard, ça leur fait pas peur, puis ils décident d'y aller avec la recrue. Donc, c'est, je pense, la fin de la carrière. Vous allez me dire, elle n'a pas duré longtemps, mais c'est la fin de la carrière de Samuel Chénard. On peut peut-être entendre un extrait d'une entrevue que j'ai faite hier avec Justin Etier, qui est coordonnateur à l'attaque chez le Rougeard. Je vais présenter l'entrevue intégrale ce soir dans mon émission. À cause des contraintes d'horaire des gens du Rougeard, j'ai dû préenregistrer hier l'entrevue avec Justin. Vous allez voir que on va écouter, puis on commentera après.
Justin, je vous souhaite pas de mal pour dimanche, là. Mais si vous sortez de là, puis le kid s'est fait intercepter 3 fois, puis vous perdez 31-7, ben, ça se peut qu'en série, ça soit pas lui.
En ce moment, encore une fois, tu sais, c'est sûr que ça va être une bonne évaluation de où est-ce qu'on est, là, avant le, comme tu dis, un peu avant les séries. C'est sûr que ça va très vite, c'est des saisons courtes. Mais on est très, très confortable avec la décision qu'on a prise. Je serais surpris qu'il y ait un changement après ce match-là. Donc, on est tous confortables avec ça pour l'instant.
Je serais surpris qu'il y ait un changement après ce match-là. Ça veut dire qu'on vit et on meurt avec le corps arrière actuel, ça, Dan, si on lit entre les lignes.
Exact. Au baseball, souvent, on dit qu'on l'a vu avec Clayton Kershaw et les Dodgers. On l'avait vu avec Steve Rogers au début des années 80 chez les Expos. On dit qu'on aime mieux perdre avec notre meilleur, tant qu'à perdre, mais le Rougeard fait le pari cette année qu'au pire, ils vont perdre avec une recrue.
Ouais.
C'est pas arrivé souvent dans l'histoire, mais ils savent que Bolduc peut donner d'autres saisons de qualité au Rougeard, ce qui n'est pas le cas pour Samuel Chénard. Donc, vous avez compris dans la réponse de Justin que ce serait très, très, très surprenant voir ici blessure à Bolduc, que Samuel Chénard redevienne le quart partant du Rougeard.
Mais Dan Chénard a passé 4 ans sur les bancs pendant les matchs, alors que Bolduc, lui, jouait au Collège Champlain, puis il a vu du temps de jeu réel. Ça lui donne pas un certain avantage d'avoir été en situation de match réel pendant que l'autre était dans les pratiques, puis sur le côté pendant qu'Hugo Richard jouait ses games?
Ta question est bonne. C'est une bonne façon de voir ça, mais en même temps, il jouait pas au niveau universitaire.
C'est sûr.
Oui, il jouait, mais c'était pas du calibre universitaire. Je suis convaincu que Samuel Chénard a beaucoup appris dans les dernières années en séance d'entraînement, à parler avec Justin Etier, à regarder Hugo Richard évoluer, à affronter de très bonnes défensives un peu partout au pays, mais il les affrontait pas en situation de match, il les a analysés sur le long des lignes de côté. Sauf que quand il a eu la chance de bien faire, tu sais, faut se comprendre. Je pense que je suis pas un expert football comme Will, là. Mais ma lecture, c'est que dans les 3 premiers matchs de la saison, là, puis même si le Rougeard avait perdu face aux Carabins à Montréal, là, si Glenn et Justin avaient constaté que Chénard a joué un bon match, mais son équipe a perdu 22-15, ça aurait probablement été lui au match numéro 4. Là.
OK.
Mais eux ont jugé que la performance du corps n'était pas suffisante pour que cette équipe-là se rende jusqu'au bout. Il faut considérer que la Coupe Vanier est présentée à Québec cette année. Donc, on ne veut pas manquer notre coup. On y va avec un corps recru. Mais le match de dimanche, c'est du bonbon. J'ai très hâte de voir ça. Parce que pensez pas que parce que les Carabins ont perdu à Sherbrooke la semaine dernière, ils sont pas de tête pour affronter le Rouge et Or. Oubliez surtout pas qu'au début de l'année, c'est les Carabins qui ont battu le Rouge et Or.
Ça fait que Dan, on se croise au tailgate du 93 dimanche matin?
Dès 9h30, on sera là avec le food truck ketchup moutarde. On va avoir beaucoup d'heures de bonheur avant le match et pendant le match avec des auditeurs qu'on a fait gagner dans les dernières semaines. Ce sera toujours un plaisir de te croiser là, Pendras.
Fantastique. Salut Dan, à dimanche.
Salut les gars, bon week-end.
Dan Pou, animateur de l'avant-match au FM 93. Qu'on retrouvera dimanche au match du Rouge et Or, au tailgate du 93.
Venez nous voir, si jamais vous n'avez pas gagné de billets, là, on est parlable pareil, là. Vous viendrez nous voir.
Ah non, moi je gagne juste au monde qui ont gagné. Je parle juste au monde qui ont gagné.
Donc à partir de 9h30.